France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue. Au sommaire aujourd'hui, un drone qui tombe sur un immeuble d'habitation dans un pays qui fait partie des 27. Jamais sans doute la guerre menée par la Russie en Ukraine n'aura touché de si près l'Union européenne. Le bilan est relativement léger de blessés, mais les réactions sont très vives à Bucarest, où nous irons dans un instant, mais aussi à Bruxelles. La Russie a franchi une nouvelle limite, dénonce Ursula von der Leyen. Alors faut-il imaginer un acte délibéré? On posera la question à notre invité. Voilà plus de 30 ans qu'il était un pilier de la troupe. Patrick Bruel ne participera pas au prochain spectacle des Enfoirés, annonce ce matin dans le sillage des nombreuses plaintes qui visent le chanteur. La chaleur graisse un peu, mais elle inquiète toujours les spécialistes de la biodiversité. On verra ça en Occitanie. Et puis on parlera de la situation économique de la France. Bonjour Mathilde Dehémy.
Bonjour Céline.
Avec l'INSEE qui évoque une mauvaise surprise.
Notre croissance est finalement négative au premier trimestre. Carton jaune à Bercy et risque de récession, mais il y a quelques raisons d'espérer.
Et toutes les précisions à suivre. À suivre également l'intelligence artificielle, il faut mieux la comprendre pour mieux la maîtriser. Voilà ce que dit en substance notre invité à 13h30. Il est ingénieur spécialiste de l'IA. Et vos questions sont les bienvenues. 01 45 24 7000. On prendra également la direction de Budapest. Bonjour Nicolas Perronnet.
Bonjour Céline.
Où les supporters du PSG commencent à arriver.
À 363 jours, très exactement, après la première étoile, où les supporters parisiens remettent ça après Munich, Budapest et sa place des héros. Premier point de ralliement. Ils seront 20 000 hein, demain dans la capitale hongroise et les premiers maillots rouges et bleus sont déjà là.
Et on vous retrouvera tout à l'heure en direct de Budapest à la veille, bien sûr, de la grande finale de la Ligue des Champions. Voilà pour le programme. C'est parti pour le 13-14.
France Inter.
La Roumanie, la Pologne, les Pays-Baltes, depuis 4 ans, tous ces pays voisins de l'Ukraine ou de la Russie ont déjà connu des intrusions de drones dans leur espace aérien, mais jamais cela n'avait causé de victimes civiles, d'où l'émotion provoquée par l'incident survenu la nuit dernière à Galati, petite ville située à l'est de la Roumanie, près de la frontière avec l'Ukraine. Un drone a chuté sur un immeuble d'habitation, 2 personnes ont été blessées. Paul Kosygian, vous retrouve en direct de Bucarest, où vous êtes le correspondant de France Inter, bonjour.
Tout cela, oui, bonjour Céline.
Suscite, on imagine, chez vous beaucoup d'inquiétudes. La Roumanie a d'ailleurs convoqué son conseil de défense.
C'est exact. D'ailleurs, cette réunion d'urgence du Conseil suprême de défense vient de se terminer il y a tout juste une demi-heure. Une enquête approfondie est en cours sur place afin de récupérer les fragments du drone, de déterminer sa trajectoire exacte et d'identifier le type d'armement utilisé. D'autre part, le président de la République, Nikos Jordan, a demandé au ministère des Affaires étrangères de proposer des mesures fermes et proportionnées à l'encontre de la Fédération de Russie. Des mesures validées déjà par le Premier ministre qui vient de préciser que des sanctions visant les diplomates russes à Bucarest seront rapidement appliquées. De son côté, le ministère de la Défense a entamé des démarches officielles auprès des alliés de l'OTAN pour demander le transfert de technologies supplémentaires de défense et de surveillance aérienne. Concernant la sécurité, le chef de l'État a souligné que la Roumanie, en tant qu'État membre de l'OTAN, ne tolérera en aucun cas l'extension des effets de la guerre d'agression menée par la Russie sur son territoire et ses citoyens. De surcroît, le soutien à l'Ukraine reste inébranlable.
Inquiétude donc en Roumanie, on l'entend avec vous. Merci Paul Kosygian. En direct de Bucarest, mais inquiétude aussi dans le reste de l'Europe. La Russie a franchi une nouvelle limite, dit la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, exprime lui la solidarité absolue de l'alliance avec la Roumanie. Toutes les grandes capitales européennes condamnent. Londres, Berlin ou encore Paris, par la voix du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, qui était ce matin l'invité de la matinale de France Inter.
Je veux d'abord condamner cet acte irresponsable de la Russie qui vise un pays ami, un pays de l'Union européenne et un pays de l'OTAN, qui a fait 2 blessés. J'ai convoqué à 9h45 ce matin l'ambassadeur de la Russie en France pour lui dire que les frappes massives du week-end dernier contre les civils, que les menaces qui pèsent sur les diplomates français et européens à Moscou et que cet nouvel acte irresponsable sont autant d'intimidations qui sont inconséquentes mais qui sont vaines car elles ne nous détourneront en aucun cas de notre soutien à la résistance ukrainienne.
Est-ce que là on a une attaque contre un membre de l'OTAN? Est-ce que ça justifie un recours à l'article 5 qui oblige les autres pays à être solidaires de ce pays membre?
On a un acte irresponsable avec un drone et c'est pas la première fois.
Mais ce n'est pas
puisque
une attaque.
Ces derniers mois, à plusieurs reprises, des drones russes, des vecteurs russes se sont égarés dans le ciel de l'Union européenne et de l'OTAN.
Mais
à chaque fois, la réponse
si
a été très forte et très ferme. Je n'ai pas à ce stade.
Mais vous n'excluez pas que cette nouvelle, acte soit intentionnelle.
Oh, mais je n'ai pas dit, je n'ai pas de détails à ce stade à vous donner.
Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, au micro de Marion Lourd et d'Ali Badou, tout à l'heure sur France Inter. Bonjour Vincent Touré. Vincent Touré, êtes-vous avec nous, chercheur au Centre des études sécurité de l'IFRI, notre invité avec nous pour évoquer justement la situation en Roumanie. Vincent Touré, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour. Vous nous entendez ? Est-ce que l'on peut parler d'une étape franchie, Vincent Touré, avec ce drone tombé sur un immeuble d'habitation la nuit dernière dans la ville de Galați, cette ville roumaine à l'est du pays, près de la frontière ukrainienne, Vincent Touré. Est-ce que c'est un incident comparable aux précédentes intrusions de drones qui ont visé d'autres pays voisins de l'Ukraine ?
Alors, non, on est dans la continuité, si vous voulez, justement. En fait, ce qui change, c'est surtout l'étendue des destructions et puis le fait que ce soit un immeuble civil habité qui a été touché. Après, par contre, il faut bien se rendre compte que ce genre d'incident est appelé, en fait, à se renouveler, à se répéter, du fait de la façon dont les Russes utilisent leurs appareils. Et là-dessus, on est dans la continuité. C'est malheureux. Comme vous l'avez dit, ça touche la Pologne, ça touche les Pays-Baltes.
Alors on voit, Vincent Touré, que tous les regards se tournent vers la Russie, qui n'a d'ailleurs pas réagi. Est-ce qu'on peut imaginer une erreur de pilotage ou bien un acte délibéré ?
On peut tout imaginer. Après, ce qui est le plus probable, si vous voulez, c'est que c'est un drone Shahed ou Kerhan russe qui s'est égaré après une frappe sur Odessa. Il peut s'être égaré parce que conditions climatiques ou par les interférences de guerre électronique ukrainien. Le fait est qu'en fait, je crois l'a dit notre ministre, si vous voulez, c'est des attaques de terreur qui sont conçues sans vraiment réflexion sur des cibles collatérales. Et voilà.
Parce que cette semaine, on a entendu Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, accuser la Russie de chercher à déstabiliser, je cite, les sociétés démocratiques de l'Union européenne. Ça veut dire qu'on ne peut pas totalement exclure qu'il y ait quelque chose de délibéré dans ce type d'intrusion de drone.
En fait, je pense que c'est une fausse question de savoir si c'est délibéré ou pas. Le problème, il existe déjà et il est bénéfique pour la Russie. La Russie nous met dans une situation où, justement, elle peut prétendre que ça soit délibéré ou non. Et en fait, elle nous pose vis-à-vis d'un problème de défense. Comment on assure l'intégrité de notre territoire, comment on assure l'intégrité de nos alliés, et nous met en face, en fait, de nos difficultés pour nous-mêmes développer des moyens de défense, d'interception, qui soient capables, en fait, d'assurer la défense de nos territoires. C'est surtout ça qui est compliqué.
Parce qu'on a vu la Roumanie qui dit on n'a pas eu le temps, finalement, d'abattre ce drone avant qu'il chute sur l'immeuble d'habitation. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours la capacité de faire face à ce type d'incident.
En fait, si vous voulez, les drones en tant que menace, ils sont assez compliqués à détecter et intercepter parce que c'est des petits appareils qui ont des matériaux qui sont peu détectables et qui volent à basse altitude. Nous, nos défenses antiaériennes et antimissiles étaient calculées, si vous voulez, pour intercepter des aéronefs, donc des appareils plus gros, plus élevés, avec une signature radar plus importante. Et donc là-dessus, en fait, il faut repenser tout notre système de détection pour pouvoir capturer, justement, détecter des appareils beaucoup moins volumineux, beaucoup plus furtifs. Donc ça nous crée un problème à ce niveau-là, au niveau de la détection. Et puis ensuite, ça nous crée un problème en termes d'interception, sur comment on touche ces drones, comment on les détruit. Parce que pour l'instant, là aussi, nos moyens de défense antiaérien étaient calculés, encore une fois, pour des appareils qui étaient beaucoup plus coûteux. Un drone Shahed, c'est à peu près 15 000 $ face à des missiles qu'on peut lui envoyer, qui, eux, chiffrent dans plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on a un vrai problème aussi là-dessus, termes de coût et en termes de quantité de stock d'interprétateurs.
Et est-ce qu'en termes d'image aussi, ça pose problème ? Parce que là, on se dit que ça met en évidence la faiblesse peut-être de l'Union européenne, de l'OTAN, de protéger son espace aérien ?
Non, je pense qu'il faut être réaliste. Inversement, je suis un pessimiste actif. Si l'Alliance réagit bien, si on engage vraiment les efforts pour justement combler notre retard technologique et opérationnel sur ce segment-là, faire face à ces menaces-là, ça peut justement démontrer notre cohésion, notre force collective. Il faut pas confondre une évolution technologique de la guerre qui a été très rapide et qui est très difficile en fait pour tous ceux qui sont pas impliqués directement en Ukraine en fait de la rattraper. On le voit en Ukraine, on le voit avec les frappes américaine en Iran, on a un retard dans la technologie des drones. Mais des efforts sont engagés et on peut parfaitement y arriver. Mais par contre, il faut les engager.
Merci beaucoup pour votre analyse en direct sur France Inter. Vincent Touré, je rappelle que vous êtes chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Et puis je cite aussi la réaction de Kiev il y a quelques minutes. L'Ukraine qui estime que cette chute de drones est une nouvelle illustration de la menace posée par la Russie pour l'ensemble de l'Europe et qui dit attendre des sanctions fortes de la part de l'Union européenne contre Moscou. Et puis toujours à propos de l'Europe de l'Est, la Hongrie tourne progressivement la page de l'époque Orbán. Le nouveau Premier ministre Péter Magyar est à Bruxelles aujourd'hui pour débloquer des fonds européens qui avaient été gelés à cause de la politique de l'ancien gouvernement à l'encontre notamment des personnes LGBT. D'ailleurs, on apprend aujourd'hui que la marche des fiertés aura bien lieu fin juin à Budapest. La police le confirme. Elle avait été interdite l'année dernière par Viktor Orban.
France Inter, le 13-14. Céline Aslo.
Des élus qui l'appellent à renoncer à ses concerts, comme à Paris ou à Marseille. Des militantes qui interrompent son spectacle au Théâtre Édouard VII à Paris. La pression se fait chaque jour plus forte sur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle. Alors le comédien qui nie les faits avait jusqu'à présent maintenu toute son activité. Voilà qu'il recule pour la première fois. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
Patrick Bruel annonce en effet ne pas participer à la prochaine tournée des Enfoirés.
Et cela nous a été confirmé ce matin. Selon la direction artistique des Enfoirés, Patrick Bruel, et qui leur a directement écrit, a pris cette décision, je cite, pour ne pas les mettre, eux et les Restos du Cœur, dans l'embarras, sans plus de commentaires. J'espère vous retrouver quand la justice aura prouvé mon innocence, leur a aussi écrit le chanteur, devenu un des piliers de ce grand concert caritatif auquel il participait depuis 34 ans et qui a encore réuni plus de 7 millions de téléspectateurs en février dernier. Et la décision de ce retrait est donc venue pour la première fois, vous le disiez, de la production de Patrick Bruel, sous pression. Et c'est bien la seule issue pour beaucoup d'organisations de festivals et de concerts prévus dans le cadre de sa tournée. Alors, regarde, elle débute dans moins de 3 semaines à Paris, une cinquantaine de dates au total. Des organisateurs souvent gênés aux entournures par cette affaire, mais qui se disent coincés juridiquement, financièrement. Prendre la décision de déprogrammer ou reporter Patrick Bruel, comme l'ont déjà fait certains au Québec ou en Suisse, coûterait beaucoup trop cher, menacerait même certains festivals. La balle est donc dans le camp de l'artiste et de sa production. D'après nos informations, certaines discussions sont en cours. À voir si ce retrait des Enfoirés n'est pas le premier d'une longue liste à venir.
Camille Marigot, service culture et grand de France Inter. La chaleur sur la pente décroissante. Il reste 11 départements en vigilance orange aujourd'hui. Les températures qui ont battu des nouveaux records hier vont commencer à régresser par le nord-ouest, nous dit Météo France. On va donc mieux respirer. Cet épisode exceptionnel devrait prendre fin d'ici dimanche. On y reviendra en détail d'ici une vingtaine de minutes avec les prévisions météo de Céline Dacosta. Et cette chaleur, elle a de multiples conséquences. On a beaucoup parlé ces derniers jours des risques pour la santé, pour les personnes fragiles. Mais la nature souffre aussi, notamment les animaux, car ces fortes chaleurs sont inhabituelles en cette période de reproduction à L. Dubois-Collin.
Entre la déshydratation et le stress, les animaux sauvages souffrent de la chaleur. Pour Joël White, enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse, au Centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement, ce sont les oiseaux qui en sont les premières victimes.
C'est un des mois de mai les plus chauds qui ait jamais existé. Et donc ça va impacter les oiseaux parce que c'est une époque à laquelle généralement ils se reproduisent. Moi qui travaille sur les mésanges, le pic de la reproduction c'est vraiment avril-mai. Ça va vraiment être les conditions dans le nid des petits qui vont souffrir de la chaleur, qui peuvent contribuer au déclin de certaines espèces.
Un impact sur les oiseaux donc, mais aussi les reptiles, les insectes et autres petits animaux de nos jardins. Thomas Cuypers, naturaliste au Conservatoire d'espaces naturels d'Ariège, l'observe. Les accouplements se font plus rares.
Il peut y avoir une chute de la reproduction, effectivement, des échecs. Ça peut bloquer certains processus ou en accélérer d'autres. Par exemple, les reptiles qui à cette saison sont très actifs, bah, s'il fait trop chaud, eh ben, ils vont être plutôt actifs le matin et l'après-midi et du coup ça réduit la période d'activité où ils peuvent s'alimenter ou se reproduire par exemple.
Alors, pour aider les reptiles et petits mammifères à se reproduire, attention à ne pas tondre sa pelouse trop court afin de préserver des zones d'ombre et d'humidité.
Ouais, du Bois-Collin de la rédaction d'ici Occitanie. On a parlé de la faune, parlons maintenant de la flore car les pompiers sont particulièrement vigilants. Depuis le début de cet épisode de chaleur, la végétation est très sèche, ce qui favorise les départs d'incendies et justement le CNRS présentait ce matin une grande étude sur le sujet. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
En s'intéressant tout particulièrement aux abords des villes, c'est là que démarrent la plupart des incendies, puisque ce sont des zones où on a à la fois des bâtiments et de la végétation. Alors comment les éviter? Le CNRS 110 s'appuie sur plus de 1000 publications scientifiques.
Oui, souvenez-vous des incendies dans les collines de Los Angeles en janvier 2025, ou plus près de chez nous, autour de Marseille l'été dernier. Beaucoup de feux se produisent dans les zones habituées situées en bordure de végétation, dans ce que les scientifiques appellent les interfaces urbaines. Elles sont de plus en plus nombreuses à mesure que les villes grignotent les espaces naturels, explique Christine Bouisset, géographe, professeure à l'université de Pau et des Pays de la Loire.
Le risque augmente avec le changement climatique, mais pas seulement. L'urbanisation, le déclin de l'agriculture. Ces dernières décennies, on observe que l'urbanisation a consommé de l'ordre de 400 000 hectares dans les seules régions du sud qui sont les plus exposées à l'heure actuelle à ce risque.
Pour réduire ce risque, les experts misent sur la pédagogie. Environ 90% des feux de forêt sont d'origine humaine et rappellent aussi l'importance du débroussaillage et même du choix des végétaux qu'on plante dans son jardin qui peuvent rapidement se transformer en torches.
Dans le sud, il y a très souvent un beau cyprès accolé à la maison. Un cyprès, c'est susceptible de transmettre directement le feu à la maison, à la toiture. Donc si vous végétalisez votre jardin, la littérature scientifique préconise de plutôt éviter ce type de choses, donc pas mettre d'arbres à moins de 3 mètres de sa maison.
Et selon les experts, il faut aussi faire attention à la manière dont on végétalise les villes pour les rafraîchir. En ce moment, les végétaliser, c'est bien, mais pas avec n'importe quelle espèce et surtout pas avec des espèces inflammables comme les eucalyptus.
Merci Sandy Dauphin. C'est aussi une conséquence de la chaleur, la SNCF a annulé plusieurs trains entre Paris et le sud-ouest ainsi qu'entre Bordeaux et Marseille par crainte de panne sur les systèmes de climatisation dans les rames corail. La SNCF qui annonce par ailleurs un nouveau retard du futur TGV-M attendu au 1er juillet. Ce ne sera pas avant début septembre. Des réglages doivent en effet être effectués avant l'accueil des premiers voyageurs. Ce nouveau TGV construit par Alstom devait initialement entrer en service pour les JO de Paris en 2024. Et puis c'est dans cet épisode de canicule qui illustre le changement climatique à l'œuvre sur la planète que se tient l'Assemblée Générale de Total Énergie. Bonjour Nina Richard.
Bonjour.
La grand-messe des actionnaires du groupe énergétique a lieu cet après-midi à la Défense, mais dès ce matin, des militants écologistes se sont rassemblés sur place pour une action qui se voulait visuelle.
Oui, la tour Total Énergie en arrière-plan, les militants en bleu de travail sont alignés avec un pipeline en carton devant eux et à chaque extrémité, deux activistes masqués, les mains pleines de billets. L'un incarne le président Emmanuel Macron, l'autre Patrick Pouyanné, PDG de Total, pointé du doigt par Raphaël Prado de l'ONG Attac pour ses 5,8 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre.
Total se gave sur le dos des Français, alors que les coûts de production Total n'ont pas augmenté, ses marges ont explosé, et il met en place une opération de communication en se faisant passer pour généreux. Et le gouvernement, au lieu de les taxer, les encourage là-dedans. Et finalement, il se retrouve aujourd'hui à encourager leur communication et à nous faire croire que Total redistribue ses profits parce que Total veut bien plafonner ses prix. Donc nous, on appelle le gouvernement à mettre en place des mécanismes pour réellement taxer là où Total réalise son activité et pas là où elle déclare ses profits, c'est-à-dire en Suisse.
Mais Total menace d'arrêter de plafonner ses prix à la pompe si une taxe sur ses super profits est instauré. Mensonge pour ces militants qui se battent aussi contre la combustion des énergies fossiles. Fanny Petitbon est responsable France pour l'ONG 350.
C'est pour ça qu'on parle de Total Énergie sponsor de la crise climatique, parce que ce que nous vivons en ce moment, c'est directement la responsabilité de cette entreprise.
Et d'après un récent sondage de l'Institut Veblen, 7 Français sur 10 sont favorables à une taxation des super profits de Total Énergie. Vous ne pouvez plus rester dans votre tour d'ivoire, concluent les militants.
Les précisions de Nina Richard. Vanter le savoir-faire français, attirer de nouveaux investisseurs étrangers. Emmanuel Macron enfilera lundi son costume de VRP du pays pour la 9e édition du Sommet Choose France qui se tient au château de Versailles. En attendant, le chef de l'État veut montrer que les engagements annoncés au cours des sommets précédents se sont concrétisés. Et pour cela, il est en ce moment en Eure-et-Loire, dans la commune de Donnemain-Saint-Mamès, où vous vous trouvez également. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Emmanuel Macron est venu visiter la nouvelle usine du groupe Vorwerk qui fabrique des robots de cuisine.
Exactement, celle qui est sortie de terre il y a un peu plus d'un an sur une friche agricole entièrement automatisée, 125 salariés. Il y a quelques minutes, le dirigeant du groupe allemand a offert à Emmanuel Macron le 2 millionième Thermomix produit. Si le robot est installé sur le pupitre où s'est exprimé le président qui, lui, a sillonné les allées de l'usine.
Bonjour madame.
Bonjour. Vous allez bien ?
Ça va bien, merci. Ça va. Et j'arrête l'année prochaine.
Vorwerk, qui possède déjà une usine dans le département, il avait besoin de s'agrandir, d'où ce deuxième site. 70 millions d'euros d'investissement et pour Pierre Chalençon, vice-président du groupe, c'était ici ou en Allemagne et Choose France, jure-t-il, a changé la donne.
On avait besoin de construire cette usine rapidement. Il fallait qu'elle sorte de terre en 2 ans. Et Choose France, ça nous a permis d'accélérer toutes les démarches administratives. Sinon, on aurait été bien embêtés parce que voilà, on avait choisi de faire l'usine ici.
D'où la venue d'Emmanuel Macron sur un site que l'Élysée a ciblé comme un symbole de la coopération franco-allemande et de la souveraineté industrielle de l'Europe.
J'en ai moins assez du défaitisme qu'on entend sur la France et sur l'Europe. Tout le monde nous dit que c'est impossible, c'est très très long en France, en Europe, on ne peut plus faire de projets industriels. En 2 ans, on a bâti une usine. Donc je le dis haut et clair, c'est possible. Et on met un coup d'arrêt à ce défaitisme insupportable.
Le chef de l'État, qui a 3 jours du sommet Choose France, est venu défendre bec et ongle son bilan en matière industrielle.
Merci Jérôme Val. Avec les moyens techniques de Romain Luquin, s'attirer des investisseurs, c'est d'autant plus important que le contexte économique est morose. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Céline.
Le gouvernement a d'ailleurs annoncé un nouveau coup de rabot dans les dépenses publiques. 6 milliards d'euros d'économies pourraient être réalisés en 2026. Mais est-ce que ça va être suffisant? Pas sûr. Car l'INSEE annonce, Mathilde, que la conjoncture économique s'annonce plus mauvaise que prévu.
Oui, 2 chiffres montrent que l'on passe lentement dans le rouge sans être non plus trop alarmiste. D'abord, l'inflation continue d'augmenter, 2,4% en mai sur un an, conséquence des hausses des prix de l'énergie. Ça grimpe, mais moins que chez certains voisins. Autre chiffre très symbolique, la croissance au premier trimestre est finalement négative, moins 0,1%. C'est un carton jaune qui vient de se lever pour Bercy, car si le produit intérieur brut recule de nouveau au deuxième trimestre, nous serons en récession technique. Pour l'INSEE, ces chiffres sont une mauvaise surprise. Le ministre Roland Lescure, lui, euphémise. Ce n'est pas une bonne nouvelle, dit-il, assurant rester vigilant.
Et comment l'INSEE explique tout cela?
Alors, ce qui portait l'économie française ces dernières années recule fortement ce premier trimestre. Moins 3,5% pour les exportations, c'est beaucoup. Mauvaise passe, notamment pour Airbus. Et la demande intérieure ne compense pas. Les ménages ont moins consommé. L'investissement se repli, grosse alerte sur la rénovation des logements, ce que le ministre de l'économie explique ce matin par la loi spéciale qui a gelé au début d'année les budgets, dont MaPrimeRénov. Certains secteurs ont donc connu très clairement un trou d'air, mais ils pourraient redémarrer au second trimestre d'après l'INSEE. Sauf que c'est exactement sur cette même période que l'on attend les plus gros effets du choc énergétique lié au détroit d'Ormuz. Pas très rassurant donc pour espérer relancer la consommation des entreprises et des ménages.
Et tout cela, merci Mathilde Dehimy, alors que l'agence de notation S&P, anciennement Standard & Poor's, doit dévoiler aujourd'hui sa note pour la France. Les économistes s'attendent à un statu quo. Le ministère de l'économie qui accueille par ailleurs aujourd'hui une réunion du G7. Ce sont les ministres du numérique qui se rassemblent pour aboutir à des positions communes sur les grands enjeux du secteur, de la protection des mineurs à l'intelligence artificielle. On parlera d'ailleurs du développement de l'IA et de ses enjeux avec notre invité tout à l'heure à 13h30. Le PSG va-t-il remporter un deuxième titre d'affilée en Ligue des Champions? C'est tout l'enjeu de la finale qui aura lieu demain à Budapest, où nous vous retrouve Nicolas Perronnet à la veille du match contre Arsenal. L'ambiance, on l'imagine, commence à monter. Vous vous trouvez, Nicolas, dans la fan zone située place des Héros. Voilà, ça ne s'invente pas, au cœur de la capitale hongroise.
Oui, reste à savoir si ces héros seront parisiens ou londoniens. Ça, on le saura demain soir. En tout cas, pour l'instant, eh bien, tout le monde se croise, c'est vrai, ici, sous le soleil, dans une ambiance printanière très agréable. Alors, un peu moins agréable peut-être pour le portefeuille quand même. 40 euros la casquette, 160 euros le ballon de la finale. Mais c'est gratuit, à condition d'être patient pour faire une photo à côté d'une réplique de la coupe aux grandes oreilles. C'est l'activité numéro 1. C'est ce qu'a fait Martin avec son maillot vintage du PSG en ouvrant les yeux très grands.
C'est fou parce que ça fait quoi? Ça fait depuis ma tendre enfance que je supporte ce club. J'ai jamais eu l'occasion d'assister à une finale. J'ai pas pu y aller l'année dernière et là c'est le cas. Donc il y a un peu la pression qui monte quand je vois tous ces maillots. Alors beaucoup d'anglais quand même, on va se mentir. Beaucoup plus d'anglais que de parisiens. Mais là, c'est sûr, c'est la pression qui monte, c'est plein de souvenirs qui remontent à la surface. Et ouais, heureux, juste heureux d'être là, quoi.
Voilà, au terme d'un périple hein, pour beaucoup de supporters. C'est vrai que ça n'a pas été simple de rejoindre Budapest. Et particulièrement pour Anthony qui, lui, avec son fils, vient d'arriver de Polynésie.
C'est 24 heures d'avion de Tahiti pour aller à Paris. Donc c'est Tahiti-Paris. Après, pour avoir un vol sur Budapest, c'était compliqué. Donc on a fait Vienne. Et la petite particularité, c'est qu'avec un permis de conduire polynésien, on peut pas louer de voiture à Vienne. Donc du coup, on a dû prendre en express un avion. On est arrivé hier soir de Vienne pour assister à la victoire du PSG et notre deuxième étoile.
Cette nouvelle étoile qui peut-être donc demain soir, tout le monde l'espère ici du côté parisien, tombera du ciel pour le PSG. Les premières grosses vagues rouge et bleu de supporters sont annoncées pour cet après-midi. Les joueurs parisiens, eux, viennent d'atterrir dans la capitale hongroise pour un dernier entraînement. Ce sera au stade à 16h45.
Merci Nicolas Perronnet en direct de Budapest avec Jérémy Thuil. Et c'est un match qu'on vous fera vivre demain soir sur l'antenne. Alors à la mode France Inter, émission spéciale de 18h à 20h avec Mehdi Maizi aux commandes. Un mot de tennis avec l'abandon du grand favori Yannick Sinner qui ouvre le champ des possibilités à Roland-Garros. Novak Djokovic peut rêver d'un 25e titre en tournoi du Grand Chelem. Le vétéran suisse affronte tout à l'heure le Brésilien João Fonseca. Et puis un seul Français en lice aujourd'hui, Quentin Alice, qui rencontre ce soir l'Allemand Alexander Zverev. Et puis lui aussi est un vétéran à nouveau à la quête, en quête de la reconnaissance du public. Paul McCartney, de retour à 83 ans, il sort un nouvel album The Boys of Dungeon Lane. Un projet centré sur sa jeunesse, sur Liverpool et sur sa vie d'avant les Beatles, Mathieu Culeron.
Paul McCartney ouvre son album de photos de la période pré-Beatles, son enfance près de Dungeon Lane à Liverpool qui donne son nom à l'album, mais aussi son amitié naissante avec John Lennon et George Harrison. Well, we were traveling on the Chester Road. Comme par exemple dans ce titre où Paul McCartney se revoit faire du stop avec George Harrison direction le Pays de Galles, une bonne façon de faire connaissance, comme le chant de Paul. It was a good way to get to know you. Les références musicales aux Beatles se succèdent, comme dans ce Mountain Top qui fait penser à Strawberry Fields Forever avec ses cascades et ses champignons magiques. Et bien sûr, il y a le titre avec Ringo à la batterie qui est arrivé presque par accident. Le plus gros clin d'œil assumé à cette nostalgie par les deux Beatles, toujours vivants. Beaucoup de souvenirs, de déclarations d'amour, de ritournelles immédiatement identifiables dans cet album riche. Paul McCartney démontre qu'il est toujours le plus grand mélodiste de tous les temps. Life can be hard, but then... That's when we start to put it together again. She calls me on.
On n'est jamais déçu par Paul McCartney. Merci Mathieu Culeron, spécialiste musique à la rédaction de France Inter. 13h27, restez avec nous dans la prochaine demi-heure. On va retrouver les prévisions météo de Céline Dacosta. Et puis on accueillera ensuite notre invité. Il est ingénieur en intelligence artificielle, bien décidé à nous convaincre de nous intéresser à cette IA qui peut faire peur. Par mieux comprendre, nous dit-il dans son ouvrage, c'est mieux maîtriser. Et vous êtes évidemment les bienvenus dans cette discussion 01 45 24 7000. On poursuit et on termine notre exploration des romans en compétition pour le Livre Inter avec Eva Bétan qui reçoit aujourd'hui Julie Wolkenstein pour Chimère. Le choix, bien sûr, sera fait dimanche par le jury d'auditeurs et d'auditrices de France Inter. 13h50, c'est la France des cimes et des océans avec vous le vendredi. Virginie Troussier, bonjour.
Bonjour Céline.
Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Nous partons à Brest pour un pèlerinage littéraire dans les pas de Jack Kerouac, hanté toute sa vie par la Bretagne et dont l'esprit semble encore planer sur le Finistère.
Et bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
Qui a votre micro aujourd'hui dans C'est une chanson?
Eh bien, nous irons à la rencontre de l'auteur de théâtre et comédien Éric Delcourt qui joue actuellement dans Napo, sa nouvelle comédie. Et avec lui, nous écouterons l'un des plus grands tubes de Claude François, Alexandrie Alexandra. On va danser, Céline, on va danser.
Bien sûr, tous ensemble. Merci à tous les deux, à tout de suite.
Coucou, c'est Mehdi Maizi. Vous m'entendez tous les soirs parler de culture et de musique. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que j'adore le foot. Donc ce samedi à 18h, je vous invite à vivre avec moi la finale de la Ligue des Champions. Et ouais, sur France Inter. Pour qui vibrez-vous? PSG? Arsenal? J'inviterai des supporters des deux camps et on sera en duplex avec nos journalistes sur le terrain.
À la régulière, en finale.
Pour vous faire vivre en direct cette rencontre au sommet,
c'est ce samedi à partir de 17h55 sur France Inter.
Catherine Pancol vous présente son nouveau roman « Déchouer des reines ».
Sophie a sauté dans le premier train pour Rouen avec pour seul bagage Sherlock, son chien. Elle s'est enfuie. Ce jour-là, son amant avait oublié de l'enfermer à double tour. Voilà, c'est le début de mon nouveau roman. Ajouter une maison au bord de la mer, une boulangère un peu folle, un danseur de tango, une vieille dame indigne, un beau Norvégien et le fantôme d'un premier amour qui hante la plage.
Des choux et des reines, de Catherine Pancol, un événement Albin Michel.
Ce vendredi, jackpot Euromillions de près de 130 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous ? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
13h30, la météo.
La météo avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par UPS Agri CNAPS.
Bonjour Céline Acosta.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
On parlait football, mais on va parler météo peut-être. Et car ce vendredi, la chaleur enfin commence à reculer sur le nord-ouest.
Oui, une baisse sensible des températures sur la Bretagne près de la Manche. Les côtes bretonnes retrouvent des valeurs plus respirables, 20 à 26 degrés. On note aussi quelques degrés de moins sur le Pays Basque, 23 degrés par exemple à Biarritz. Et sur les côtes méditerranéennes, même si ça reste chaud, plus que 31 degrés par exemple à Perpignan contre 37 hier. Il fait 30 degrés cet après-midi à Marseille. Partout ailleurs, la chaleur reste bien installée avec encore souvent 30 à 35 degrés jusqu'à 36, 37 localement. Il reste encore 11 départements vigilance orange canicule, de la Loire-Atlantique à la Gironde et puis Paris et sa petite couronne.
Pour le ciel, Céline, le soleil domine encore largement, mais on a des nuages quand même, davantage.
Oui, un voile nuageux qui est bien présent du nord de l'Aquitaine à la frontière belge en passant par l'Île-de-France. En seconde partie d'après-midi, on pourra avoir quelques orages le long des frontières belges, une instabilité orageuse qu'on va retrouver sur le sud des Alpes avec des chutes de grêle, orages qui pourraient même déborder vers le Var, vers les Bouches-du-Rhône dans la soirée. On pourrait aussi avoir quelques averses sur l'est des Pyrénées.
Merci Céline Acosta.
France Inter. Le 13-14. Céline Aslo.
Il y a ceux qui sont inquiets de l'intelligence artificielle, ceux qui veulent tenir à distance cette IA qui semble capable de tout bouleverser. Et puis il y a ceux au contraire qui voient une opportunité à condition de la comprendre et donc de la maîtriser. Notre invité fait plutôt partie de cette dernière catégorie. C'est vous Anis Ayari, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Merci à vous d'être venu, ingénieur en intelligence artificielle. Vous venez de signer un ouvrage intitulé Le super pouvoir de l'IA. C'est aux éditions First. Alors quel est le but d'abord de cet ouvrage ? Est-ce que votre idée, c'est de convaincre les réticents?
Alors déjà, mon idée, c'était d'écrire mon premier livre. Je n'avais jamais fait, c'est assez incroyable de le faire d'ailleurs. Et c'était surtout, en fait, d'avoir la voix d'un ingénieur, peut-être, qui parle sur l'IA. Parce que finalement, en vérité, les ingénieurs, on ne parle pas souvent dans le débat public. On est beaucoup dans les entreprises, on travaille beaucoup, on met l'IA à disposition d'énormément de personnes. Mais en fait, finalement, on nous entend très peu. C'est Étienne Klein, typiquement, qui disait ça aussi. Et du coup, c'est beaucoup de personnes qui m'ont encouragé en me disant « Ben, t'as plein de choses à dire,
écris le livre. » Vous l'avez écrit sans l'IA ?
Non, je l'ai écrit avec l'IA. Ah. Évidemment. Mais en fait, je pense que c'est excessivement important. Je me suis servi de l'intelligence artificielle pour écrire le livre. Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est que je suis dyslexique. Typiquement, écrire un livre comme ça, à main levée, comme si on imaginait un auteur écrire un ouvrage, je ne peux pas le faire, littéralement. Donc en fait, comment j'ai utilisé l'IA pour écrire le livre, typiquement, en fait, moi j'ai parlé à mon ordinateur avec la dictée vocale. Et parfois, vous savez, quand on parle, il y a des choses qui ne sont pas forcément très françaises, c'est décousu, etc. Et du coup, j'ai demandé à l'IA, ok, là la phrase elle fait une page, parce que j'ai fait que parler, mets-la en forme, typiquement. Mmh. Et je pense que, et j'ai pas honte de le dire, parce que je pense qu'il faut commencer à déculpabiliser les gens de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que je le dis très honnêtement.
Alors si les professeurs qui vous écoutent se disent « si tous nos élèves font ça, on ne va plus jamais apprendre à écrire tout seul », vous comprenez que ça peut être un message aussi qui peut faire peur.
Totalement. Moi, j'ai fait l'école de la République, collège, lycée, grandes écoles, etc. sans intelligence artificielle. Donc je me suis formé, évidemment, à écrire, à la pensée, etc. Mais ce n'est pas pour autant, je pense, qu'il faut absolument l'interdire. Moi, dans le livre, et j'en parle très longuement, c'est un peu le fil rouge, j'essaye de vraiment faire comprendre au lecteur que l'intelligence artificielle, c'est là, c'est un outil qui est utilisé, qu'on le veuille ou pas. Typiquement, si on prend l'exemple des professeurs, plus d'un élève sur deux aujourd'hui admet utiliser l'intelligence artificielle. Donc, c'est là, qu'est-ce qu'on en fait ? Mmh. On ne peut pas juste se contenter de dire « on l'interdit, on verra ».
Pour vous, c'est trop tard. On ne peut plus dire « il faut mettre l'IA de côté, c'est trop tard, elle est là, on ne peut plus rien faire ».
Clairement, le génie est sorti de la lampe. Mmh. Et le monde, c'est plus, la question qui se pose, c'est plus comment est-ce qu'on remet le génie dans la lampe, c'est impossible. Donc, comment est-ce qu'on réussit à faire une société autour de cette technologie ?
Vous utilisez une autre métaphore dans l'ouvrage. Vous dites « une fois que Prométhée a donné le feu aux humains, impossible de le reprendre ouais, ». Est-ce que c'est vraiment comparable au feu donné aux humains par Prométhée, l'IA ?
Bah, pour le coup, moi, j'aime à penser que j'aurais bien aimé vivre la fin du 19e siècle, quand on a inventé l'électricité, parce que ça devait être incroyable, en vérité, quand on y réfléchit, le avant et après l'électricité. Et en fait, on a une chance incroyable dans cette génération, c'est qu'on est en train de vivre la révolution industrielle de notre génération, en vérité. L'intelligence artificielle, peut-être on s'en rendra compte dans 10 ans, peut-être certains s'en rendent compte déjà, mais c'est en train de modifier absolument énormément d'usages. Quand je parle d'intelligence artificielle, je ne parle pas que d'intelligence artificielle conversationnelle, type ChatGPT. Je parle en fait de ces ordinateurs qui sont capables de créer des choses et surtout d'ingérer des millions de quantités de données, de compresser l'information et de ressortir une tâche pour laquelle ils n'étaient pas spécifiquement entraînés pour à la base. Et moi, je compare vraiment ça à l'électricité et au feu, oui, aussi dans le livre. Et pour moi, l'IA joue ce rôle de venir donner justement un super pouvoir aux gens.
Mais vous comprenez que ça peut être extrêmement vertigineux, aussi très inquiétant de se dire on va avoir des machines qui vont savoir tellement faire de choses qu'on va se sentir tout petit à côté, pour
bien
reprendre
sûr
l'exemple des dieux et des hommes.
Bien sûr, et moi je le comprends totalement. Évidemment que je comprends tous les gens qui ont peur de cette technologie. Évidemment que je comprends tous les gens qui craignent, par exemple, pour leur travail. Je comprends aussi les professeurs qui se disent « Mais en fait, les élèves, on a quoi à leur apprendre ? Comment faire pour réussir à leur apprendre de nouvelles choses ?» Moi, en plus d'écrire ce livre, en plus d'être ingénieur dans mon travail, je fais aussi de la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux. Et je parle à énormément de personnes différentes et ils me disent tous la même chose. C'est-à-dire que l'IA est là et... au final, c'est un outil, et une fois qu'on a compris que c'est un outil, comment est-ce qu'on peut l'utiliser justement pour s'élever ? J'aime bien penser ça.
On va aller au standard de France Inter pour accueillir David. Bonjour David et bienvenue.
Oui, bonjour, merci.
Est-ce que vous êtes plutôt pro ou anti, vous, IA ?
Ouais, il ne s'agit pas de... Enfin, moi je serais tout à fait anti, hein, mais...
On a le droit à la nuance, hein, bien sûr.
Oui, oui, non, mais... Mais c'est consternant en fait. Votre invité, bon bah c'est vraiment un ravi du progrès. Hein, donc il n'a plus aucune conscience parce que moi il s'agit pas de se positionner en ayant peur. Hein, il s'agit pas du tout d'une peur, mais d'une prise de conscience. C'est-à-dire là on est au bout d'une société du progrès qui en fait nous dit que finalement les humains nous sommes des nuls. Nous ne sommes pas capables, c'est ce que votre intervenant, qui pourtant est ingénieur...
Pour le coup, je n'ai pas du tout dit ça.
On va voir ce qu'il vous répond. Allez-y, allez au bout de votre réflexion, David.
Voilà. Et donc, je pense qu'il s'agit aujourd'hui de faire un moratoire sur le progrès, et notamment sur l'IA l'IA, c'est au final, c'est les armes, c'est la guerre.
Hein. Vous ne l'utilisez pas du tout.
Et juste pour finir, j'encourage... à la lecture du journal La Décroissance, qui parle de libérer-nous du progrès. Mmh. Voilà, c'est le spécial numéro mai-juin 2026. Il est vraiment temps qu'un maximum de gens puissent accéder à ce type de médias indépendants. Vous n'en parlez jamais du journal La Décroissance, alors que tout à l'heure,
c'est fait grâce à vous.
On est en croissance négative. Économiquement, croissance
merci
négative,
beaucoup.
Ça s'appelle la décroissance de la régression.
Merci beaucoup, David, pour votre témoignage et votre critique, effectivement. Peut-on imaginer qu'il faille toujours aller vers plus de progrès, Anis Ayari ? C'est vrai qu'on peut se poser la question.
Alors, comme pour répondre aussi à l'invité, hein, je n'ai jamais dit que les humains sont nuls. C'est même plutôt l'inverse. En vérité, pour moi, on vit une époque absolument incroyable dans le sens de la créativité. Et vraiment, je pense qu'il ne faut pas considérer l'IA comme une fin en soi. L'IA, c'est... je pense que la personne que vous avez eue au téléphone, elle a peut-être une vision de l'IA très concentrée sur ce qu'on pourrait imaginer dans de la science-fiction, etc. L'IA, ça sert à soigner des gens aujourd'hui. L'IA, ça sert à développer des médicaments encore plus vite. L'IA, ça sert à suivre le réchauffement climatique. L'IA, ça a énormément de bienfaits aussi au niveau global. Et je pense que, en fait, malheureusement, si on pense qu'à chaque fois qu'une nouvelle technologie sort, c'est un pas en arrière et c'est de l'anti-progrès. Je pense que malheureusement, on ne va pas réussir à faire société. Et surtout, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on est dans un marché mondialisé et globalisé de l'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui des questions de souveraineté.
Mais parce que notre auditeur évoquait la question du moratoire, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter un instant, réfléchir, construire un cadre, parce que le progrès technologique, lui, va beaucoup plus vite que notre réflexion collective autour de l'intelligence artificielle.
Ouais, pas plus tard que la semaine dernière, moi je me suis posé la question, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je dormais pas, c'est-à-dire que je restais sur mon ordinateur et il pouvait créer continuellement, comme si j'avais une addiction en vérité à l'intelligence artificielle qui est toxique en vérité. Et donc moi-même je me suis posé la question. Et en fait je pense que c'est ça le message à retenir, c'est pas une question de bien, de mal, on n'est pas dans une joute limite biblique ici. En fait ici on est en train de se poser la question de, on a une technologie qui nous permet de faire mieux, plus vite, comment est-ce qu'on l'utilise et qu'est-ce qu'on fait autour de ça. Et je comprends, moi, encore une fois, tous les gens qui en ont peur, mais je suis aussi là pour assurer, moi, ma casquette d'ingénieur. Ça fait 10 ans que je travaille dans ce domaine. J'ai développé des modèles d'intelligence artificielle, de machine learning, des petites startups jusqu'aux plus grands groupes du CAC 40. En fait, c'est des technologies qui permettent de faire énormément de choses qui sont aujourd'hui dans les entreprises. Et en fait, ça serait... pour le coup, je pense pas très fut-fut de s'en passer.
Vous dites l'inculture technique, elle profite toujours aux puissants. Ça veut dire Totalement. Qu'il faut en fait mieux comprendre l'intelligence artificielle. C'est ça que le message de votre livre.
Exactement. En fait, il faut c'est magnifique que vous dites ça, parce que c'est vraiment le point à la fin du livre qui est extrêmement important. C'est qu'il faut vraiment comprendre que si une technologie n'est pas comprise et adoptée par les gens, elle profite toujours à ceux qui en sont à la base. Je vous donne des exemples. Les technologies de reconnaissance faciale. Avant, les technologies de reconnaissance faciale étaient réservées à une petite élite qui se passait des technologies entre elles, limite jusqu'à la Silicon Valley, certains s'amusaient avec des applications dans les bars à reconnaître des gens. Mais quand les technologies de reconnaissance faciale, et notamment l'open source, qui est le fait de mettre à disposition du plus grand nombre des codes en source ouverte, est arrivée, on a commencé à pouvoir mieux comprendre, mieux parfois aussi contrôler ces technologies. Et donc finalement, ça a permis aux gens de se dire, en fait, on ne va pas forcément nous les imposer, parce que si on les comprend, on peut forcément influer sur le débat public. Et je pense que c'est ça qui est excessivement important à faire comprendre.
Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faudrait, je sais pas, à l'école, qu'on apprenne à utiliser l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il faut aller jusque-là?
Ouais, moi je milite pour un grand plan de remise à niveau global. Je dis pas qu'il manque de connaissances à ce propos, mais vraiment avoir un socle global de la compréhension de l'intelligence artificielle pour les professeurs, avant pour les élèves, parce qu'en fait moi quand je parle à des professeurs qui sont autour de moi, ils ont tous des compréhensions très différentes en vérité de l'IA, parfois par principe, parfois par posture, parfois parce qu'ils se sont vraiment intéressés. Et en fait moi j'ai peur que finalement l'intelligence artificielle devienne un vecteur d'inégalité aussi dans les sociétés, comme ça a pu l'être avec le français et les maths. Si on a des parents qui sont bons en français et en maths, forcément les élèves vont être bons aussi en français et en maths. Moi je pense que vraiment l'école devrait servir de socle, de base commune à la compréhension de ces technologies, en commençant par la base commune pour les professeurs.
Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous faites grâce à l'intelligence artificielle que vous ne pourriez pas faire, à part écrire le livre, puisque c'est l'exemple que vous donniez tout à l'heure? Est-ce que vraiment votre vie est meilleure?
Ah, c'est magnifique comme question aussi. Merci beaucoup. Est-ce que ma vie est meilleure avec l'IA? En fait, après... Moi, en fait, j'ai une chance, c'est d'avoir un métier passion. Quand j'étais 14 ans, j'ai 33 ans aujourd'hui, je regardais Iron Man avec des étoiles dans les yeux et je me disais, waouh, moi aussi, j'aimerais bien avoir un copain robotisé comme ça. Et du coup, aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, j'ai développé typiquement mon propre personnel assistante qui est sur WhatsApp, qui est connecté à mes emails, etc. Alors, je dis pas, attention, il faut pas forcément que tout le monde fasse ça parce que ça peut être excessivement dangereux, notamment sur les fuites de données. Mais en fait, il me permet de comprendre plus vite du contexte. Typiquement, le matin, je me réveille, je n'ouvre plus ma boîte email. Je demande à mon IA, alors, c'est quoi aujourd'hui? Un peu exactement comme la scène de Iron Man qui claque des doigts et qui dit « Wake up, Jarvis », pour ceux qui ont la référence.
Mais tout ça a un coût environnemental, par exemple. On sait que l'intelligence artificielle, c'est extrêmement coûteux en énergie, en eau notamment. Est-ce qu'au nom de notre confort, ou de gagner un petit peu de temps, ou de faire les choses de façon un peu plus facile, est-ce qu'on ne prend pas de mauvaises habitudes qui sont désastreuses pour la planète, ça?
Ouais, en fait, l'IA a un coût environnemental. Ça, c'est sûr. Moi, je suis pour dire et continuer, dire aux chercheurs vraiment de continuer à travailler sur la réussite pour réussir à mieux calculer l'impact de l'environnement. Moi, je regrette un peu que le débat vis-à-vis de l'écologie et de l'intelligence artificielle soit parfois galvaudé par posture. Par exemple, il y a quelques années, il y avait des chiffres qui circulaient en disant une requête ChatGPT consomme 1 litre d'eau. C'est de la désinformation. Typiquement, on est à des ordres de grandeur beaucoup, beaucoup moindres que ça aujourd'hui. Mais c'est des questions à se poser et moi je suis pas expert de l'impact de l'écologie, de l'impact de l'IA sur l'écologie, mais je pense qu'il faut faire attention. Et aujourd'hui ça reste pour le coup un sujet de recherche, même s'il y a des résultats extrêmement parfois inquiétants aussi.
Je crois que Cécile est en ligne avec nous. Bonjour Cécile.
Oui.
Et bienvenue. Je vous laisse poser votre question.
Oui, voilà, moi c'est juste un petit exemple. Voilà, c'est un ancien élève à moi qui est dyslexique et qui est devenu ingénieur de l'IMT Lille, c'est-à-dire informatique et réseau, et qui nous a dit l'année dernière, fin décembre, que ben heureusement qu'il avait fait ses études avant l'IA.
Ah.
Voilà.
Pourquoi ?
Et donc il a, il nous l'a pas franchement expliqué, mais voilà ce qu'il nous a dit. Bah certainement parce qu'on pouvait avoir des réponses tout de suite, ouais, toutes faites. Et voilà.
Bon, merci Cécile pour ce témoignage que vous vouliez nous livrer. Nissa Yari, est-ce qu'on se dit pas aussi effectivement il y a un avant, il y a un après, et c'était peut-être plus simple à l'époque où on ne se devait pas se poser la question de l'intelligence artificielle dans tous nos usages, dans tous nos apprentissages.
Non, en fait, ce qui est rigolo, c'est que moi la semaine dernière j'étais dans un collège et il y a des collégiens qui m'ont dit mais Anis, t'as passé quand ton bac? J'aurais dit waouh, moi je l'ai passé il y a 15 ans mon bac. Ils m'ont dit mais il y avait pas ChatGPT. J'ai dit non. Ils m'ont dit mais comment t'as fait? Comment j'ai fait pour
s'en passer? C'est inquiétant, non? Vous dites pas c'est inquiétant que vous entendez ça?
Ben non, parce que moi finalement, quand je passais mon bac, je disais la même chose à mes parents. Comment ils ont fait sans Internet? Comment ils ont fait sans Wikipédia, etc. C'est bien la preuve, je pense qu'on est dans un progrès. Encore une fois, ça vaut quand même le coup de se poser la question. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Je pense que la peur, elle est intéressante quand elle nous permet de nous poser des questions. Mais la peur, quand elle nous fait stopper et rester sur place, c'est là, je pense, qu'elle devient encore plus dangereuse que d'utiliser l'IA.
Pour en apprendre davantage sur ce sujet, je renvoie à votre ouvrage, Le super pouvoir de l'IA aux éditions First. Merci beaucoup.
Merci encore,
Yari, d'être venu aujourd'hui dans le studio de France Inter. C'est l'heure maintenant de vous présenter le tout dernier ouvrage en lice pour le Livre Inter. Vous savez que le jury se réunit dimanche. D'ailleurs, le lauréat ou la lauréate sera ici même dans le studio du 13-14 lundi avec Jérôme Cadet. Aujourd'hui, on vous présente donc Chimère de Julie Wolkenstein, l'autrice au micro d'Eva Bétan.
5 femmes et un sale type mort. Assassinat ou légitime défense? 25 ans après, à tour de rôle, ces femmes donnent leur version des faits. Elles éclairent des zones d'ombre, elles révèlent aussi des trahisons, des manipulations, leurs imperfections. Les temps ont changé, elles regardent aussi le passé avec leurs yeux d'aujourd'hui. Elles nomment ce qu'à l'époque on n'appelait pas emprise, pédopornographie, viol conjugal. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'une des données majeures, c'est le temps.
Oui, parce que le nœud de l'intrigue prend une toute autre vérité 25 ans après, oui, une révolution dans la manière de considérer les relations entre les hommes et les femmes, et que ce qu'on ne percevait pas, ou qu'en tout cas on ne savait pas nommer dans les années 1990, désormais on sait l'identifier et essayer de le prévenir. Et moi, je suis très nourrie aussi de ces nouveaux regards qui peuvent se poser sur notre monde, et je m'aperçois à quel point, dans ma génération, on était beaucoup plus fataliste et tolérante, comme c'est le cas de l'héroïne de ce livre, qui est à peu près mon âge et qui donc, elle, a eu 20 ans dans les années 90.
Il y a une chose sur laquelle le regard est très important, c'est la maternité. Il y a une femme qui a refusé d'élever son enfant. Elle l'a laissé au père, elle a disparu. Elle lit ces événements avec le regard d'aujourd'hui. Je voudrais qu'on entende un extrait. Or, une sirène, je ne vous apprends rien, est un monstre, une chimère, un être hybride qui ne trouve sa place dans aucune catégorie, aucune espèce déterminée. C'est ainsi que je me voyais. Si j'avais reconnu et élevé Iris, en tout cas c'est ce que je redoutais, j'aurais à mon tour été une mère monstrueuse. Et j'aurais fait d'elle une autre sirène, une créature aussi contre nature que moi, aussi incapable de s'intégrer à la communauté humaine.
Il n'y a pas que les hommes qui sont éventuellement maltraitants. Cette femme, elle a été victime, en effet, d'une mère extrêmement perverse. Et elle se le formule, en effet, très longtemps après, que c'est probablement la raison pour laquelle elle a abandonné sa fille, avec la peur de reproduire sur cet enfant une enfance elle-même fracassée. Et je ne sais pas, en effet, si au moment où elle renonce à cet enfant, elle en a conscience, mais elle en a conscience avec le recul et avec beaucoup de culpabilité, même si elle ne regrette pas son choix.
Ça se passe entre gens bien élevés. Certains sont très riches, d'autres moins, mais personne n'est dans la misère. Qu'est-ce qui vous fait choisir ce monde-là ?
Ce qui m'a fait choisir ce monde-là, c'est qu'en fait, ce roman est le décalque, à l'exception du crime qui ne s'y trouve pas, d'un roman d'Henry James, hein, qui s'appelle Portrait de femme, qui est un de mes romans préférés au monde, et qui est un roman qui met en scène les mêmes personnages que moi, avec les mêmes prénoms, très souvent. D'ailleurs, je n'ai pas cherché à dissimuler cet emprunt à James, et que les personnages dans le roman de James sont de grands privilégiés, on peut le dire. Donc,
il faut rappeler que vous êtes une traductrice d'Henry James.
Je l'ai un peu traduit, je l'ai surtout beaucoup étudié de manière universelle. Mais ce roman de James, c'est aussi cela qui a changé dans mon regard sur lui, c'est cette révolution MeToo et cette nouvelle manière d'envisager les relations hommes-femmes, parce que Portrait de femme, James évidemment ne prononce aucun des termes qui sont maintenant utilisés pour ça, mais c'est exactement ça qu'il décrit. Il décrit une jeune femme, Isabelle, qui renonce à tout ce qu'elle pourrait espérer. Elle pourrait espérer beaucoup parce qu'elle est très belle, très intelligente, très indépendante, pour subir l'emprise d'un homme. Et ce roman que je connais par cœur, depuis une dizaine d'années, je le comprends tout à fait autrement, et ça aussi c'était à l'origine de mon désir d'en faire un polar.
Voilà pour Chimère, en lice pour le prix du Livre Inter, et je vous rappelle que le lauréat ou la lauréate sera l'invité du 13-14 lundi.
France Inter, le 13-14.
13h50, c'est la France des cimes et des océans. Virginie Troussier, aujourd'hui nous partons à Brest sur les pas de Jack Kerouac.
Son nom de baptême est Jean-Louis Kerouac. Il signera ses livres Jack Kerouac. Il naît aux États-Unis en 1922. Son patronyme le fascine. Ker, la maison, Wack, le champ. Son nom contient déjà un paysage. Son père lui répétait « Tijan, n'oublie jamais que tu es breton ». Il faut voir les dernières interviews de Kerouac. Il passe d'une langue à l'autre et donne l'image d'un homme perdu entre deux cultures. C'est cette trace-là que suit aujourd'hui l'écrivain Pierre Adrian, dont on connaissait déjà l'excellent travail, dans son livre « Le rêve inachevé » de Jack Kerouac.
Alors quel voyage justement entreprend Pierre Adrian ?
Eh bien, il suit l'itinéraire de Kerouac en juin 1965, celui que l'écrivain raconte dans Satori à Paris, lorsqu'il débarque pour quelques heures à Brest, comme un cinglé perdu, imperméable sur le dos, chapeau vissé sur la tête, à la recherche d'un ancêtre nommé Lebris de Kerouac, qu'il ne retrouva jamais. Pierre Adrian arpente la rue Colbert, là où Kerouac se réfugie dans un commissariat en pleine nuit. Il visite l'hôtel Bellevue, qui n'a pas tant changé, rue Victor Hugo, où il dort à peine avant de fuir vers la gare au petit matin, un cognac dans le ventre. Kerouac ne reviendra pas à Brest. Peu importe le but, c'est le chemin qui compte, dirait-il. De retour chez lui, il entame une correspondance avec un Breton de New York, Ewan Guernig. Celui-ci lui prépare un voyage en Bretagne, mais Kerouac annule. Il meurt peu de temps après, en 1969. Épuisé par l'alcool. Il lui restera jusqu'au bout ce paradis perdu et ce mot que le poète Ferlinghetti lui avait glissé devant le Pacifique. Qu'est-ce que peut bien nous dire la mer, avait demandé Kerouac. Le poète avait répondu, les poissons de la mer parlent breton.
Et est-ce qu'on peut dire, Virginie, que Kerouac a marqué les Bretons ?
Oui, Pierre Adrian a rencontré toute une génération de poètes fascinés par Kerouac. Louis Berthelhomme, Jacques Josse, Bruno Genest. Marc Penec dit avoir retrouvé chez Kerouac ce qu'il cherchait désespérément dans la vie et dans, les livres, c'est-à-dire un désir d'être. Entre 1880 et 1970, un important réseau armorique Amérique s'est tissé avec l'émigration de milliers de Bretons. Parmi eux, un certain Le Bihan, ancêtre de Kerouac, parti au Canada. Dans les années 70, la Bretagne s'ouvre ensuite aussi à la contre-culture américaine, mêlant l'esprit Woodstock à l'héritage breton. Aujourd'hui, Sur la route, le livre culte de Kerouac se vend à 100 000 exemplaires chaque année dans le monde et les artistes de la région continuent de clamer sa poésie.
Et qu'est-ce qu'on emporte de Kerouac quand on quitte Brest ?
Rappelons-nous, à l'adolescence, on avait la vie devant nous et Kerouac dans la poche.
Mais oui.
L'écrivain invité à rompre avec les vies trop formatées. Son héritage reste sujet à controverse. Il est celui qui a ouvert des portes, mais dont la déchéance fait frémir. Certains passages de son œuvre sont également franchement dispensables. Mais c'est dans ses traces, à Brest, que Pierre Adrian découvre celui qui l'aimait. Il écrit « Je crois que c'était ce Kerouac humain, trop humain, qui me touchait au fond. Ce gars pétri de contradictions, l'âme simple et fêlée, dépassé par son succès, écrivain reclus plutôt qu'aventurier. Je préférais Tijan au clochard céleste. » Alors on comprend que tout nous parle dans ces paysages hantés, jusque dans la rue Jack Kerouac, pour
pour peu que nous sachions encore écouter. La Bretagne commence dans la tête, dit Pierre Adrian. Et peut-être partons-nous en pèlerinage à la recherche d'un auteur aimé pour retrouver une part de nous-mêmes. Dans les livres, l'océan ne sépare pas, il rapproche.
Merci Virginie Troussier de C'est la France. Ah, c'est une chanson et c'est un comédien et auteur de théâtre que vous recevez aujourd'hui, Frédéric Pommier. Il s'agit d'Éric Delcourt.
Éric Delcourt qui est actuellement à l'affiche de la Comédie Bastille à Paris dans la pièce Napo. Pièce qu'il a coécrite, dans laquelle il campe un Napoléon qui rêve de devenir le prochain président de la République. Et c'est une chanson de Claude François qu'il a souhaité que l'on écoute, Alexandrie Alexandra.
En fait, ça a été mon premier émoi artistique. Pas au niveau des paroles, au niveau de la danse. Mes parents n'écoutaient pas beaucoup de musique et j'ai entendu ça à la radio et ça m'a fait un espèce d'électrochoc corporel.
Vous aviez quel âge à ce moment-là ?
J'avais 6 ans.
Et l'électrochoc qui se manifeste de quelle manière ?
L'électrochoc qui se manifeste qu'en fait, tout de suite, à la première seconde, j'ai mon corps qui se met en émoi sur cette chanson. Et en fait, je ne comprenais pas effectivement les paroles d'Alexandre Alexandra, par Claude François, et je trouvais qu'il y avait quelque chose de fantasmé avec ses Claudettes. Alors moi, j'ai 6 ans, hein, je ne sexualise pas du tout la chose à ce moment-là. Et j'attendais pendant des heures sur la radio que cette chanson repasse. Et cette chanson m'a amené après vers le funk. Ça m'a vraiment ouvert à une éducation musicale.
Cette chanson, elle a été le point de départ ?
Elle a été le point de départ. Et ça m'a donné le sens du rythme, l'envie de danser. J'ai pris des cours de danse. J'aurais aimé être danseur professionnel, bon, j'ai fait autre chose. Et moi, Claude François, j'ai beaucoup pleuré à son décès. Je crois que j'avais 8 ans. Je ne comprenais pas bien pourquoi. C'était ma seule émotion, un petit peu, de quelqu'un que je ne connaissais pas. Alors après, évidemment, ça s'est un peu estompé. Mais je me suis rendu compte qu'au fil des années, c'était quand même des chansons qui arrivaient dans les mariages, dans les choses qui toujours étaient festives, qu'on ne jugeait pas, et dans laquelle tout le monde dansait. Il y avait un espèce de rythme entraînant.
Voile sur les filles. Sur le Nil, je suis dans ta vie, je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra.
Et c'est en 1977 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Un tube dont on doit les paroles à Étienne Rodagile, mais oui. Et un tube qui a donc eu l'effet d'un déclic pour Éric Delcourt.
Ça m'a donné le goût du spectacle. Alors pas de chanter, parce que je chante un petit peu comme une casserole. Non, ça m'a donné l'idée du show. C'est-à-dire que j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'engouement pour ce monsieur que je connaissais pas. Hein, où elle était blond avec des vestes à paillettes, avec des grandes talonnettes. Là, j'ai vu qu'il trichait un petit peu. Mais c'était la rythmique américaine qui venait intégrer une chanson française.
Cette chanson-là, vous disiez que vous n'en compreniez pas les paroles quand vous l'entendiez à 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, vous en comprenez quoi ?
J'ai fait une petite analyse. J'ai eu la chance de rencontrer Rodagil il y a un petit moment. Et en fait, c'est une ode à une femme libre, à l'amour passionné, à l'amour brûlant qu'on ne maîtrise pas. Et après, oui, quand on découvre les paroles, elles sont un peu puériles. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de message, c'est pas Aznavour. Mais il chantait le rythme. Et comme c'était un mec intuitif, il s'est dit, voilà.
Vous avez connu, vous, des Alexandra ?
Oui, oui, j'ai connu Alexandra à Toulouse, une fois. Qui venait pas d'Alexandrie, qui venait de Hoche, qui était Miss Hoche, d'ailleurs.
Et vous avez eu une histoire avec cette Alexandra ?
Oui, tout à fait. Jusqu'à temps que je lui chante la chanson de Claude François, et puis là, c'était terminé.
Sirène du port d'Alexandrie, chante encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de la jeunesse.
Aujourd'hui, quand vous entendez cette chanson-là, en soirée, ou qu'elle passe à la radio, est-ce que vous avez automatiquement 6 ans, 7 ans ?
Je pense. Elle m'entraîne immédiatement. Et je trouve que les premiers beats des 5 premières secondes sont absolument démentiels de toutes ces chansons de cette période, comment dire, funk, entre Magnolia Forever, celle-ci, c'est quelque chose, parfois on fait du blind test avec des copains, ça se reconnaît immédiatement que vous ayez une culture musicale ou pas, c'est quelque chose qui est tellement intégré. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas hein, Claude François pour l'humain, alors je ne fais pas la séparation de l'œuvre et de l'artiste, il faut faire attention à ce qu'on raconte, mais je ne suis pas fan du bonhomme hein, en soi. Après j'ai vu le film, c'est vrai que ce n'était pas visiblement un garçon très sympathique. Mais oui, je pense que je redeviens le petit garçon de 6 ans qui a envie de se bouger sans trop comprendre pourquoi il se bouge sur ses paroles quand Claude François démarre lors d'une soirée.
Ça veut dire que cette chanson, elle vous rend joyeux ?
Elle me rend joyeux, bien sûr. Oui, tout à fait. Elle me rend content, joyeux, envie de danser, en fait, de bouger son corps. Et moi, oui, ça me ramène en enfance systématiquement.
On a tous envie de danser, Alexandre et Alexandra de Claude François. C'était donc Frédéric, le choix d'Éric Delcourt.
Éric Delcourt que vous pouvez voir jusqu'au 16 juin à la Comédie Bastille à Paris dans la pièce Napo.
Merci Frédéric Pommier, je précise qu'on vous retrouve vous tous week-end au Salon du Livre de Caen où vous allez dédicacer votre dernier livre Derrière les Arbres, publié chez Flammarion. Un mot pour remercier celles et ceux qui ont fabriqué le 13-14 cette semaine avec Claude François en fond sonore, à la rédaction en chef Cécilia Arbona, Aurélien Collis, Sonia Princé, Lionel Thompson et Corinne Boulou, assistés de Sylvain Lepin, Le Sage, Rachid Zourdani, Fabien Tchekopa, Anna Lessence et Matteo Bardio, à la technique Ronan Maé et Alix Barrois et Camille Pougjalali à la production. Merci également aux standardistes de France Inter. À suivre La Terre au Carré, Mathieu Vidard, quel est le programme ?
Dans un instant, Céline, je reçois un bûcheron, il s'appelle Mathias Bonneau et il publie un livre qui s'appelle justement Bûcheron.
Merci Mathieu, à tout de suite.